Bonjour et bienvenue dans ce podcast du Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Je suis Pauline, technopédagogue, et j'ai le plaisir de m'inviter dans vos oreilles pour que nous explorions ensemble des enjeux, des outils et des bonnes pratiques pédagogiques ou technopédagogiques. En tant que service d'appui à l'enseignement, apprentissage et à l'innovation pédagogique de la Haute École, le CDTP informe, sensibilise et outille la communauté éducative pour qu'elle s'approprie et prenne une part active à la transition numérique. Depuis nos studios, je vous accompagne dans ce podcast qui explore l'une des compétences clés du cadre de référence européen des compétences numériques des citoyens, DIGECOMP 2.2, la programmation. Nous allons avec mon invité explorer cette compétence méconnue et vous donner des outils et des conseils pour mieux l'appréhender. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans le monde passionnant des compétences numériques avec les podcasts du CDTP. Aujourd'hui, nous rencontrons Alexis Mack, enseignant en numérique et en mathématiques à la Haute École Léonard de Vinci. Bonjour Alexis.
Bonjour Pauline.
Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que votre rôle au sein de la Haute École ?
Bien sûr. Donc je suis Alexis Mack, je suis un enseignant en numérique et en mathématiques à la Haute École Léonard de Vinci. Mon parcours en tant qu'enseignant inclut plusieurs années d'expérience dans des cursus d'informatique, principalement en réseau et en sécurité informatique, et auprès de futurs automaticiens. J'utilise personnellement la programmation pour me simplifier la vie quotidiennement et je suis fermement convaincu de l'importance d'aider les étudiants à développer leurs compétences en programmation. Cela leur permet non seulement de mieux comprendre le monde numérique dans lequel ils évoluent, mais aussi de répondre à des besoins personnels et aux exigences numériques croissantes du marché du travail.
Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par cette compétence du référentiel DIGECOMP, programmation ?
Donc la compétence 3.4 du référentiel DIGECOMP, elle est intitulée programmation. L'objectif principal de la programmation, c'est l'automatisation de tâches informatiques. À ses débuts, on pensait que cette automatisation, ça permettrait de libérer beaucoup de temps aux êtres humains. Et en réalité, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc on a gagné beaucoup en efficacité, mais il y a des nouvelles tâches qui sont apparues pour remplacer les anciennes tâches qui ont été automatisées. Le référentiel européen DIGECOMP souligne plusieurs éléments importants concernant cette compétence 3.4. Tout d'abord, il insiste sur l'importance d'analyser les problèmes avant de recourir à la programmation. Donc c'est super important de d'abord définir précisément un problème avant d'être capable d'écrire un programme pour le résoudre. Et cette analyse, elle peut également aider à choisir un langage de programmation qui sera adéquat. Pour qu'il soit adapté, il faut disposer d'un système informatique capable d'exécuter le programme. Cela peut impliquer diverses installations et mises à jour du système, voire des exigences minimales en termes de processeur, de mémoire ou d'autres composants. Le référentiel, il aborde également les langages de programmation. C'est un domaine qui est souvent intimidant pour les débutants. Il est essentiel de comprendre que tous les langages y partagent les mêmes concepts logiques fondamentaux, même s'ils ont été conçus avec des objectifs différents, comme une syntaxe plus claire pour l'utilisateur ou une optimisation pour des domaines différents ou spécifiques. Il est recommandé aux débutants de commencer avec les langages associés aux domaines qui les intéressent, comme Python plutôt pour l'analyse de données ou TypeScript pour le développement web. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit la diversité des langages, chacun ayant ses propres avantages et limitations. L'essentiel, c'est moins de le choix du langage en tant que tel, mais plus la compréhension des concepts logiques de programmation qu'ils incarnent. De façon plus générale, le référentiel il insiste aussi sur les éléments constitutifs des programmes informatiques, notamment les structures comme les boucles et les conditions. La base d'un programme informatique, c'est des instructions. Un même algorithme qui comprend par exemple deux boucles imbriquées et différentes conditions, il se matérialisera par des instructions écrites selon les règles strictes propres au langage de programmation utilisé.
Merci. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret de comment cette compétence peut être utilisée au quotidien ?
Bien sûr. Donc, dans l'exemple de l'entreprise, quelque chose qui peut être très classique, c'est l'automatisation de rédaction d'offres de prix et de mails pour envoyer ces offres de prix. Et donc, vous avez pendant la semaine un commercial qui va passer voir différents clients, il va collecter des informations et vous aurez par la suite un programme qui va utiliser toutes ces informations qui auront été encodées pour compléter automatiquement les données d'une offre standard et pour envoyer un mail personnalisé à chacun des clients. Donc oui, c'est un gain de temps qui est précieux et ça permet aussi de réduire le risque d'erreur humaine.
Donc si je comprends bien, si je travaille dans un service RH, je pourrais utiliser cette automatisation non pas pour la rédaction des offres de prix, mais pour la rédaction d'offres d'emploi.
Par exemple, oui, absolument. Vous pourriez avoir des offres standards et rajouter des éléments factuels et ponctuels dans l'offre de manière automatisée en fonction de certains éléments clés que vous allez rajouter.
D'accord. Et si je prends un exemple en tant qu'enseignante, j'ai beaucoup de données dans mes learning management systems comme Moodle. Je pourrais très bien l'utiliser pour faire l'analyse de la consultation des ressources en ligne par mes étudiants et d'automatiser par exemple l'envoi d'un mail lorsque l'étudiant est à tant de pourcentage de non-lecture ou de non-consultation d'une ressource.
Absolument, vous pouvez. Les Moodle est déjà programmé en ce sens, donc là-dessus, vous n'avez pas rajouté de la programmation, mais c'est une programmation qui est derrière, et donc on pourrait réfléchir à des éléments qui n'existent pas encore sur Moodle et rajouter par nous-mêmes un petit programme qu'on aurait fait nous-mêmes pour nous aider à détailler des éléments en plus. Et effectivement, on peut extraire énormément de données, comme le temps passé sur la page Moodle, le temps passé en lecture, les scores à différents tests Moodle qui seraient corrigés automatiquement. Et avoir des réactions automatisées en fonction de ça pour inciter les étudiants à continuer à travailler le cours.
J'imagine qu'il est donc important de bien choisir les tâches à automatiser.
Oui, absolument. Donc là, pour moi, l'exemple le plus flagrant, c'est dans beaucoup d'entreprises, il y a un petit mail qu'on reçoit lors de son anniversaire. C'est évident que c'est un mail automatique. Donc moi, je trouve ça juste du gaspillage numérique. Je pense que ça apporte vraiment très peu aux travailleurs qui reçoivent un mail dont il sait très bien que c'est un envoi automatique basé simplement sur sa date de naissance. Donc ça, je trouve ça déjà dommage. Et après, à côté de ça, si on reprend l'exemple de l'entreprise, je pense que automatiser par exemple des envois de mails publicitaires, c'est parfois moins efficace que d'envoyer quelqu'un sur place discuter pour essayer de vendre un produit.
Et pourquoi finalement est-il important pour tout citoyen d'aujourd'hui de développer cette compétence ?
Alors c'est vraiment une compétence essentielle de notre monde moderne. Elle permet de mieux comprendre comment fonctionnent les technologies que nous utilisons tous les jours. Elle permet aussi de résoudre des problèmes de manière automatique, comme on en a déjà parlé. Parfois, il faut avoir un peu de créativité pour réussir à programmer pour résoudre automatiquement un problème. Donc, c'est pas toujours évident, mais si on y arrive, on a vraiment un gain important d'efficacité. Là-dedans, j'aimerais rappeler que notamment un ordinateur effectuer certaines tâches, il va le faire de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus rapide que nous. Je pense à des calculs, à des recherches dans des registres ou des éléments comme ça. Et donc vraiment, là-dessus, c'est même plus fiable que l'humain et plus rapide. Donc ça vaut la peine de ne pas le faire soi-même.
Est-ce que la démocratisation des systèmes d'intelligence artificielle est une bonne nouvelle dans ce domaine ?
Alors oui, la démocratisation des systèmes d'intelligence artificielle, c'est plutôt une excellente nouvelle, mais elle vient aussi avec ses propres défis, évidemment. L'IA, elle nous offre de nouvelles opportunités pour réussir à automatiser des tâches plus complexes, pour analyser des données à une échelle encore plus grande qu'avant. Mais c'est important que les développeurs y prennent en compte des aspects éthiques, notamment la transparence, la non-discrimination et la prévention des préjugés. Et à ce titre, la maîtrise de la programmation, elle permet de mieux comprendre et de mieux contrôler ces systèmes, et donc de les utiliser d'une manière plus responsable, plus éthique, et donc de contribuer à des solutions technologiques qui soient plus justes et plus équitables.
À ce titre, vous dites qu'il est crucial que les développeurs prennent en compte l'aspect éthique. Pourquoi ?
Alors, il y a eu quelques exemples où des IA qui étaient censées communiquer avec nous, par exemple sur des réseaux sociaux, se sont retrouvés à se radicaliser au fur et à mesure des conversations dont elles se nourrissaient, et donc on se retrouve à avoir sur nos réseaux, et je pense que c'est un corps d'actualité, des bots, donc des programmes automatiques qui répandent des commentaires plutôt haineux ou autres. Et évidemment, d'un point de vue déontologique, il faut éviter de laisser se répandre des discours de haine, surtout si c'est simplement de l'automatisation.
Comment les gens peuvent-ils commencer à développer cette compétence ? Y a-t-il des ressources spécifiques que vous recommandez ?
Alors, pour ceux qui souhaitent commencer à développer cette compétence, je recommande fortement de visiter la plateforme pix.org. Donc Pix, elle offre des tests d'auto-évaluation qui couvrent 5 grands domaines du numérique et les compétences numériques du cadre de référence européen d'Ishcomp. Les tests Pix, ils permettent de se familiariser avec la compétence programmation du référentiel européen notamment. Et en plus de ça, on peut utiliser des plateformes comme Code Academy, Coursera, EDX, qui proposent des cours en ligne gratuits ou payants pour approfondir nos connaissances en programmation. On peut aussi utiliser des environnements de programmation visuelle comme Scratch. C'est une excellente manière de débuter, notamment avec les plus jeunes, et ça permet aussi d'avoir une approche qui est un peu plus ludique.
Quels sont les défis courants que rencontrent les débutants en programmation et comment peuvent-ils les surmonter ?
Alors souvent, les débutants en programmation, ils vont rencontrer des défis de compréhension des concepts, notamment l'utilisation des boucles, des conditions et des fonctions. Et donc, ils peuvent se sentir un peu submergés par les erreurs et les bugs. Et donc, pour les aider à surmonter ces défis, ce qui va être important, c'est de pratiquer régulièrement. et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. On peut aussi participer à des projets pratiques et collaborer avec d'autres apprenants. Ça peut vraiment aider à rester motivé et à permettre de ne pas lâcher l'affaire. Et au niveau des qualités, ça va être lié à ce que je viens de dire. Il faut être patient, il faut être persévérant, parce que la programmation, c'est une compétence qui se développe avec le temps et l'expérience. Il s'agit vraiment de régularité.
Faut-il être bilingue français-anglais pour débuter dans la programmation ?
Alors non. Évidemment, il y a des mots-clés qui sont utilisés qui permettent de structurer nos programmes informatiques. Souvent, ces mots-clés, ils vont être en anglais, mais le nombre de mots-clés est vraiment limité. Même si vous n'avez pas une traduction parfaite du mot que vous utilisez, du mot-clé que vous utilisez dans votre programme, ça ne vous empêche pas d'écrire des programmes tout à fait valides et intéressants.
Merci. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui hésite encore à se lancer dans l'apprentissage de la programmation ?
Là-dessus, j'aimerais revenir d'abord sur le contexte professionnel dans lequel on vit. Donc, je pense vraiment que la capacité à écrire des scripts pour automatiser des tâches, ça peut vraiment significativement améliorer notre productivité. En plus, avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et la présence grandissante des systèmes informatiques dans notre quotidien, avoir des compétences en programmation, ça devient vraiment un atout majeur. Un professionnel qui est capable d'automatiser des tâches répétitives pour gagner du temps, pour être plus précis dans son travail, il va devenir beaucoup plus productif qu'un professionnel qui n'est pas à l'aise avec les technologies numériques et avec la programmation. Et donc, vraiment, avec l'avènement en plus de l'IA qui nous permet de rédiger à notre place des bouts de programme, le fossé de productivité entre les professionnels qui osent se lancer dans la programmation et ceux qui ne le font pas, il va faire que se creuser. Après, pour un autre aspect de réponse à cette question, il faut commencer petit. Donc, il ne faut pas se laisser décourager par la courbe d'apprentissage initiale. Ça peut sembler intimidant, la programmation au début, mais chaque petite victoire, chaque script qui fonctionne, c'est à chaque fois très gratifiant. Et il faut essayer de trouver des projets, soit qui vous passionnent, soit qui vraiment vont vous permettre de gagner du temps et donc vont vous rendre la vie plus simple. Et du coup, vous allez avoir un apprentissage qui va être soit plus motivant, soit plus amusant. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de communautés en ligne qui sont très accueillantes et qui sont prêtes à aider les débutants. Donc vous avez beaucoup de forums où vous pouvez demander de l'aide, y compris pour des projets qui peuvent sembler ambitieux à votre niveau. Un excellent exemple de ça, c'est Makato Koike. Donc c'est un fermier japonais. Son histoire va être racontée dans beaucoup de journaux. Donc dans sa ferme, il cultive notamment des concombres. Et après les avoir cueillis, il passait beaucoup de temps, enfin ou ses employés, à devoir trier ses concombres en fonction de leur aspect, de leur taille, de leur couleur, et il faisait ça à la main. Et bien qu'il ne soit pas informaticien, lui, il a réussi à créer un programme capable de trier automatiquement les concombres en utilisant un modèle d'intelligence artificielle qu'il a lui-même entraîné avec plusieurs milliers de photos. Donc il a pris des milliers de photos en choisissant à chaque fois la bonne catégorie pour chacun des concombres, et puis après, il a créé une petite chaîne dans laquelle il a mis une webcam qui est capable de prendre une photo du concombre et sur base de l'entraînement avec les milliers de photos qu'il avait faites au préalable, il a pu permettre à son programme de décider, grâce à l'intelligence artificielle, dans quelle catégorie il fallait trier chaque concombre. Et donc évidemment, à moyen terme, c'est un gain immense pour lui et donc il a vraiment bien fait d'être déterminé et persévérant dans la programmation.
Pour conclure, où est-ce que je peux trouver de l'information fiable pour me renseigner sur la programmation ?
Donc en plus de la plateforme PIX, où comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez vous auto-évaluer et améliorer vos compétences numériques, il y a d'autres sources fiables pour apprendre la programmation. Et dans les classiques, il y a notamment le site Stack Overflow qui va vous permettre de poser des questions sous forme de forum avec beaucoup de gens qui sont souvent présents sur ce forum et donc vous allez vite avoir des réponses très intéressantes, vous allez vite être débloqué. Il y a aussi le site GitHub qui permet là de partager en open source différents projets. Et donc souvent, quand on a un projet, y a bien un projet proche qui existe déjà. Et donc ça nous permet de gagner en temps et aussi de pouvoir analyser la manière dont les choses ont été faites. Il y a aussi des livres, il y a aussi des cours en ligne qui sont offerts notamment par des universités ou des hautes écoles renommées. On peut les retrouver notamment sur des plateformes comme Coursera, EDX, mais aussi directement sur les sites liés à ces universités ou ces autres écoles. Ce sont vraiment des outils vraiment utiles pour avancer dans la programmation. Au niveau des exemples très concrets, et si vous voulez voir ce que ça donne à la fin et avoir peut-être un aspect plus motivant puisque les choses vont avoir été produites pour que ce soit attrayant, vous pouvez utiliser YouTube. Il y a vraiment beaucoup de chouettes idées et de chouettes choses à découvrir sur YouTube et qu'on peut réadapter pour soi. Au niveau des organisations, il y a notamment l'organisation code.org. Il y a aussi des événements comme les hackathons qui peuvent vous offrir des expériences d'apprentissage pratiques et interactives. Moi, quand j'apprenais à programmer, j'aimais beaucoup la plateforme Learn Code de Hardway, mais il faut savoir que l'essentiel de leurs cours sont devenus payants avec le temps et je ne sais pas s'ils sont toujours de bonne qualité.
Mais justement, par rapport à ça, pourquoi parle-t-on de « toujours de bonne qualité » Est-ce que c'est parce que cela évolue rapidement ?
Alors oui, il y a quelques références qui restent vraiment dans la durée, mais il y a aussi beaucoup d'autres sites qui nous permettent d'avoir des tutos, d'apprendre sur des plateformes qui vont être rachetées au fur et à mesure du temps, qui vont changer de propriétaire, l'équipe va changer derrière. Et donc, c'est difficile de se prononcer ici sur cette plateforme que j'utilisais dans le passé.
Merci Alexis Mac d'avoir participé à ce podcast consacré aux enjeux de la transition numérique et au cadre de référence européen DIJCOMP 2.2 proposé par le Centre de développement technopédagogique de la Haute École Léonard de Vinci. Merci à vous d'avoir exploré avec nous ces enjeux du 21e siècle. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager et le diffuser autour de vous.